Le Ramchal nous explique que chaque fois qu'on est en train de fêter une fête, comme Pessah, Shavuot et Sukkot, il ne s'agit pas uniquement d'un souvenir, d'une commémoration, d'un événement qui s'est passé il y a 3000 ans, mais c'est surtout essentiellement que nous sommes de nouveau en train de vivre à nouveau ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à nos ancêtres il y a quelques millénaires. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à la fête de Pessah, on est en train de vivre encore une fois ce que nos ancêtres ont passé à Pessah, la sortie d'Égypte. Pareil, nous dit Rabbi Tzedaka Kohen, lorsqu'on aborde ces parashiot, Shemot, Vaera, Bobeshalach, qui nous relatent la sortie d'Égypte, eh bien nous sommes de nouveau en train de vivre cette sortie d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire ? On dit pas, on dit chaque année, lorsqu'on arrive à Pessah, on nous dit Zman Chelutenu. C'est quoi ce que Pessah, c'est le temps de notre liberté. Alors, pas le pshat évidemment, c'est quoi c'est, on est en train de relater qu'à cette période-là, il y a 3300 années et quelques, eh bien, nous étions esclavage et nous avons été libérés. Top. Mais à cela, dit le Ramchal ainsi que Rabbi Tzedaka Kohen, que c'est bien plus que cela. Mais chaque année, lorsqu'on arrive à Pessah, lorsqu'on relate ces parashiot, on arrive de nouveau à Zman Chelutenu. C'est-à-dire qu'on est en train de nouveau de vivre cette liberté. C'est-à-dire que c'est un moment pour nous qui est propice d'être des hommes libres, d'être transformé en un homme libre. C'est ce qu'on va expliquer ce soir. D'abord, dans quel domaine, dans quelles circonstances un homme n'est pas libre et comment réaliser cette liberté en soi. Top. Alors en fait, c'est très simple. On se rend compte qu'un homme, en effet, n'est pas tout à fait libre. Des fois, bien souvent, on a l'impression que nous sommes des hommes libres, qu'on fait ce qu'on veut, je fais ce que je veux, personne ne va me dire quoi faire, je décide tous les jours, tous les matins, ce que bon me semble. Mais en fait, c'est faux. Pourquoi ? Parce qu'en effet, tu fais ce que tu veux, mais ce que tu veux, ça dépend d'une certaine éducation. Ça dépend d'un certain tempérament, d'un certain caractère que tu as. Ça dépend des tendances, des instincts que tu as. Et très souvent, un homme, il est carrément emprisonné dans sa nature, dans ses instincts. Il est esclave de ses mauvaises habitudes. Il est esclave de ses vices, de ses défauts. Et il ne s'en rend même pas compte. Entre parenthèses, un grand penseur avait une fois dit que la démocratie a en effet donné à l'homme cette certaine liberté de pouvoir faire ce qu'il veut, contrairement à la dictature. Mais cependant, ce monde moderne de la démocratie a cependant dicté à l'homme que vouloir. C'est-à-dire, on te dit, fais ce que tu veux, mais qu'est-ce que tu veux ? Eh bien, c'est décidé par les slogans publicitaires, par les médias qui te font un lavage de cerveau quotidiennement. Si bien que lorsque tu vas décider quoi faire, tu as en effet décidé que faire selon ta volonté personnelle. Mais cette volonté, elle a été auparavant bien bâtie, édifiée, érigée par les médias qui t'ont fait un bourrage de crâne, un lavage de cerveau pendant des années durant. Ça, c'est une parenthèse. Top. On vient à notre sujet. Donc, il faut d'abord prendre conscience qu'un homme, même s'il estime qu'il est un homme libre, qui fait ce qu'il veut, c'est pas, en général, c'est pas tout à fait le cas dans beaucoup de domaines. Pourquoi ? Parce qu'un homme, il a ses habitudes, son caractère, son tempérament, son éducation, il y a aussi les mœurs et la civilisation dans laquelle il vit. Pas très souvent, il y a des pays dans lesquels les formes de politesse sont très très poussées, comme en France, d'autres pays où c'est le contraire. Et des gens, des fois, une personne est habituée à quelque chose si bien qu'il en est esclave. Il est obligé de parler de telle façon, sinon il va se sentir mal à l'aise. Il lui faut absolument, n'est-ce pas, qu'on lui parle de telle ou telle façon, parce que sinon pour lui ce sera un affront, une insulte. Ça aussi, il faut bien comprendre que c'est, entre guillemets, un certain esclavage. On doit absolument te respecter, t'honorer, te parler, dialoguer avec toi de telle ou telle manière, sinon tu es mal à l'aise, tu vas être vexé, tu vas être offensé, tu vas passer une mauvaise soirée, tu vas passer une nuit blanche. Ça aussi, c'est une certaine asservitude de façon générale. Par cela, viennent nos sages et nous disent que nous avons dans l'année deux périodes qui sont très propices pour essayer de nous libérer de toute cette asservitude, cet esclavage, tout ce qui nous dérange en général. Une période, c'est la fête de Pessah. Une autre période, c'est pendant, lorsqu'on lit les parachiotes qui sont Shmot, Vaera, Bo Beshalach, qui relatent en effet la sortie d'Égypte. Alors on va essayer d'expliquer comment réaliser cela, comment remédier à cette liberté, comment être libéré de nos instincts, de nos habitudes. Alors tout d'abord, ce qui est important, c'est prendre conscience qu'un homme a cette capacité, cette faculté de se maîtriser. Alors, contrairement à beaucoup de psychologues et de psychanalystes et de psychiatres qui estiment qu'il y a certains instincts, une nature humaine qui dirige l'être humain dans ce qu'il doit faire, ce qu'il doit penser. Et il y a ce qu'on appelle, par exemple, le refoulement, c'est que s'il y a une certaine nature, un instinct qui n'a pas été réalisé, qui n'a pas été apaisé, qui a plutôt été refoulé, eh bien, ça peut même provoquer des perturbations chez l'être humain. La Torah nous dit autre chose. Il est vrai, n'est-ce pas, qu'il y a une nature, il y a les instincts, c'est vrai, on le reconnaît. Il y a, n'est-ce pas, le Yetzerato, etc. Mais cependant, dans tous les cas, la Torah, Hachem, a donné à l'être humain cette faculté de pouvoir se maîtriser. C'est-à-dire, on t'a donné toutes les données pour que tu puisses te maîtriser dans tous les cas, dans toutes les situations, n'est-ce pas, sauf, évidemment, exception rare, dans quelques cas rares où c'est vraiment un cas de force majeure. Mais en général, n'est-ce pas, dans 99% des cas, un homme peut se maîtriser face à toute situation. Top. Alors comment réaliser cette métamorphose en soi, de se libérer, n'est-ce pas, de tous ces instincts et ces natures qui nous perturbent et être réellement un homme libre. Top. Alors tout d'abord, il y a un machal qu'on a déjà cité une fois, on va le citer encore une fois. L'être humain est comparé à un bâtiment dans lequel il y a une cave, un rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, troisième, il y a une terrasse, il y a un balcon, il y a un penthouse, un jardin, etc. Et bien souvent, un être humain, il habite dans la cave de sa propre personnalité. C'est-à-dire que bien souvent, un être humain, il n'est pas conscient des forces, des capacités morales, intellectuelles et spirituelles que Hachem lui a donné en cadeau. Même dans certains cas, même des forces physiques, on n'est pas toujours conscient des forces qu'on a. On connaît bien plusieurs cas dans lesquels un arbre ou alors une armoire est tombée sur un petit enfant et c'est précisément la mère qui se précipite pour soulever l'armoire ou l'arbre en question. Et elle a fait preuve d'une force inouïe qu'elle n'aurait jamais imaginé pu avoir. Pourquoi ? Ce n'est pas une force nouvelle qu'elle a eue. Cette force, elle l'avait toujours en elle. Mais c'est une force qui était cachée, voilée, dissimulée. Dès que cette force a été motivée, suscitée par le danger de l'enfant, et bien c'est là où cette mère a pu, n'est-ce pas, réveiller, susciter cette force et l'exploiter de façon efficace et nécessaire pour sauver son enfant. C'est-à-dire qu'un être humain a de grandes capacités physiques, morales, intellectuelles et spirituelles, et pas toujours on en est conscient. Bien souvent, on en est inconscient. Et on vit comme dans la cave, c'est quoi, c'est-à-dire on vit, n'est-ce pas, avec nos instincts, nos vices, nos défauts, nos épanchantes, pas des fois c'est la mélancolie, la tristesse, le désespoir, le découragement, etc. Ça s'appelle, n'est-ce pas, la cave de l'être humain. Alors qu'un homme, n'est-ce pas, qui sort de sa cave, qui sort, n'est-ce pas, de ce trou, de cette caverne, et qui monte au premier étage, second étage, etc., il peut découvrir en soi un monde fabuleux, extraordinaire. On avait cité une fois, par exemple, le cas de deux enfants, deux frères jumeaux, qui se trouvent sur une plage en train de s'amuser. Et tout d'un coup, il y a une vague qui vient les submerger tous les deux et les font boire la tasse à tous les deux. Alors l'un de ses enfants se met à pleurer et à réclamer sa mère. Alors que l'autre enfant éclate de rire et se met de nouveau à courir vers les vagues. Alors en fait, qu'est-ce qui a fait pleurer cet enfant? Si on dit que c'est la vague qui l'a fait pleurer, c'est faux. Parce que si une vague fait pleurer, eh bien son frère jumeau aurait dû aussi pleurer. Pourquoi est-ce que son frère a rigolé? En fait, ce n'est pas la vague qui fait ni pleurer ni rigoler. Ce qui te fait pleurer ou rire, c'est la façon dont tu vas interpréter l'événement qui t'est arrivé. C'est-à-dire la façon dont tu vas communiquer avec ta propre personnalité. Un tel événement, tu peux l'interpréter de façon positive comme de façon négative. C'est-à-dire que bah, ça dépend comment est-ce que tu prends la chose. Pas aussi nos instincts qui nous dérangent, n'est-ce pas? Nos défauts avec lesquels notre yetzara, avec lequel nous avons un combat quotidien. Ça dépend comment est-ce que tu le prends. Bah, si tu te laisses aller, tu dis, c'est une nature, bah, il n'y a rien à faire. Si je vais le refouler, eh bien, je vais être mal à l'aise, mal me sentir. Alors évidemment, n'est-ce pas, c'est le chemin, c'est l'orientation que tu as choisie. Eh bien, bederer, shadam rotzel lechet, bamolichinoto. Le chemin que tu veux choisir, eh bien, on te conduit, on te dirige dans ce chemin. Si tu dis non, au contraire, j'ai une nature, j'ai un instinct, j'ai des vices, des défauts, pas, je ne vais pas me laisser abattre, eh bien, au contraire, je vais essayer d'ériger en moi, de bâtir en moi une personnalité qui va être maître de tous ces défauts, de ces instincts. Je veux au contraire, n'est-ce pas, apprendre à exploiter, à utiliser toutes mes forces pour combattre mes instincts. Pas comme cette mère qui réussit à se surpasser, à dévoiler les forces, même physiques, qui étaient cachées en elle pour sauver son enfant. Pareil, nous aussi. Nous avons la possibilité de dévoiler en nous, de faire rejaillir des forces morales, intellectuelles, spirituelles, qui étaient jusqu'à présent cachées en nous. Alors tout d'abord, n'est-ce pas, il faut être conscient. Il faut une prise de conscience, tout d'abord, que nous avons la possibilité de nous maîtriser. Parce que quand quelqu'un, de prime abord, pas, il est sûr d'échouer, il n'a aucune chance de gagner. Pas, si quelqu'un il monte sur le ring, pas pour se battre avec son adversaire, s'il est sûr d'échouer, évidemment, n'est-ce pas, il va même les forces qu'il a en lui, il ne va même pas les exploiter de façon efficace et positive. Il va se laisser aller parce qu'il est sûr de rater la partie d'échouer. Si au contraire, n'est-ce pas, un être humain devient conscient, prend conscience qu'il a la possibilité de se maîtriser, rien qu'uniquement cette compréhension, cette prise de conscience va lui donner beaucoup plus d'enthousiasme, beaucoup plus d'envie de se maîtriser. Et grâce à cela, il va pouvoir découvrir en lui, en soi, des forces qu'il n'aura jamais connues jusqu'à présent. Deuxièmement, ce qu'on a cité, déjà, c'est que, encore une fois, la prise de conscience, que nous avons des forces qui sont cachées, voilées, dissimulées en nous. Ben, on se connaît aussi, en période d'examen, eh bien, quelques jours, quelques semaines avant l'examen, on arrive là aussi à se surpasser. On se passe de loisirs, on peut, n'est-ce pas, dormir très peu, on peut manger rapidement pour exploiter le maximum de temps pour se préparer à l'examen. Non seulement cela, on peut aussi, pas avant l'examen et surtout pendant les examens, eh bien, on bénéficie d'un pouvoir de concentration, pas qui parfois nous étonne. Pas, eh bien, on est concentré pendant 2, 3, 4, 5 heures pendant l'examen, eh bien, une concentration extrême, pas au maximum possible. Eh bien, uniquement par ces exemples-là, on peut se rendre compte qu'en fait, pas, je peux toujours le faire. C'est-à-dire qu'on a ce pouvoir de concentration et de préparation, eh bien, toute l'année durant. Mais ce qu'il y a, c'est que pas toujours, n'est-ce pas, on est motivé, parce que c'est uniquement lorsque l'examen arrive qu'on est motivé. Pas, c'est entre parenthèses, avait dit une fois le Rav de Brisk sur le Orsamear. Rabmir Simcha avait dit sur lui, c'était ça sa force. Sa force en Torah, c'était, il avait dit que c'est comme un homme qui se trouve dans un danger. Par exemple, pas, il se trouve pris dans un incendie. Et pas un homme qui est conscient, qui ne perd pas les pédales, et qui est en train d'exploiter le maximum de ses capacités, de ses forces, pour se sauver de ce danger. Eh bien, pareil, le Orsamear, lui, il était constamment, toute sa vie, pratiquement toute sa vie, pas, il était braqué, concentré sur la Torah, la Tfilah et les mitzvot, avec une telle concentration, de façon à exploiter toutes les capacités, toutes les forces que Hachem lui a données, communiquées, pour pouvoir s'élever spirituellement le maximum possible. Donc, troisième élément qui va nous aider à nous surpasser et maîtriser nos instincts, c'est la motivation. C'est-à-dire que il faut se rendre compte, il faut prendre conscience de l'enjeu que tu as en face de toi. On dit plus enfin l'exemple, si tu donnes un diamant, une pierre précieuse à un enfant, un bébé, pour lui c'est un caillou, c'est une pierre, il va la jeter parce qu'il ne connaît pas la valeur. Si au contraire, tu la donnes à un diamantaire, eh bien il pourra te dire la valeur, il va la garder précieusement. Pareil pour nous aussi. C'est qu'il faut se rendre compte, il faut prendre conscience de l'enjeu que nous avons en face de nous. Alors tout d'abord, par rapport à la personnalité humaine, il faut s'habituer, il faut s'intéresser à ce qu'on peut gagner si on arrive à adopter une maîtrise de soi et ce qu'on peut perdre si au contraire, n'est-ce pas, on se laisse aller pas au gré du vent, on se laisse aller au désespoir, on se laisse être dominé par nos instincts, nos vices et notre nature. Qu'est-ce qu'on perd par rapport à notre personnalité, par rapport à notre élévation qu'on peut arriver si on arrive à se maîtriser? Bon, c'est une étude, n'est-ce pas, longue à établir, mais de façon brève, on va dire deux mots là-dessus. Pas tout d'abord, il faut bien se rendre compte que un être humain, plus il fait quelque chose, plus, n'est-ce pas, il est en train d'approfondir, de s'enfoncer dans ce qu'il fait. Par exemple, un homme qui est nerveux, qui est coléreux, eh bien, lorsqu'il a 20 ans, ou il a 40 ans, ou 60 ans, c'est différent. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'énerve, disons, une fois par jour, une fois par semaine, il pique une crise de nerfs, eh bien, lorsqu'il aura 40 ans, 50 ans, ce sera beaucoup plus difficile de se maîtriser. Et non seulement cela, c'est que lui-même, il va encore plus souffrir de sa colère. Sans parler, n'est-ce pas, de ses amis et de ses proches, parents, qui vont encore plus souffrir de sa colère. Pourquoi? Parce qu'il a accentué, il a approfondi sa colère encore plus. C'est-à-dire que prendre conscience que lorsque on est en train de s'habituer, d'approfondir, d'intensifier un vice, un défaut, c'est encore plus grave avec le temps. Alors qu'à l'inverse, si on arrive à se maîtriser, eh bien que c'est un travail qui n'est pas toujours facile au départ, après quelques mois, ou alors dans certains cas, quelques années de travail, eh bien on pourra carrément, n'est-ce pas, être libéré de cette colère, de cette nervosité, et au contraire, n'est-ce pas, on vivra une vie bien plus paisible, dans le calme, la tranquillité, dans le bonheur. Entre parenthèses, c'est important de savoir que dans tous les cas, nous avons la possibilité de nous maîtriser. J'avais connu il y a quelques années quelqu'un, un Rav, qui me paraissait très très calme, très patient. J'ai même remarqué une fois, j'étais en train de discuter avec lui, et pendant la discussion, il me dit, excuse-moi, je suis en train d'apercevoir ma fille qui va presque tomber des escaliers, ben, je vais l'aider, et je reviens à toi. Je lui dis, allez-y, pas de problème. Et dès que je lui ai donné le OK, là, tout d'un coup, n'est-ce pas, il a bondi pour récupérer sa fille, pas avant qu'elle tombe. Et enfin, j'étais frappé, fasciné par ce paradoxe. La tranquillité, enfin, le calme avec lequel il a dialogué avec moi. Et il a même attendu que je lui donne le OK. Et tout d'un coup, n'est-ce pas, il a bondi avec un zèle extraordinaire pour récupérer sa fille. C'est-à-dire qu'en général, pas les gens qui sont rapides, ils sont aussi nerveux. Les gens qui sont patients, qui sont calmes, ils sont aussi très lents. Pas pouvoir créer en soi une harmonie de la tranquillité, du calme intérieur, pas aussi accompagné d'un zèle, d'une rapidité, pas, c'est vraiment un niveau très élevé. Top. Alors cette personne-là, je vais poser la question. Est-ce que son calme, sa tranquillité, est-ce que c'est une qualité qui était innée en lui, ou alors c'était une qualité qui était acquise par un travail pendant un certain temps? Alors il m'avait répondu, à mon étonnement, qu'en effet, ce n'est pas une qualité acquise, mais au contraire, c'est une qualité qui est... Pardon, ce n'est pas une qualité qui était innée, mais qui a été acquise par un travail pendant des années durant. Il m'avait raconté que lorsqu'il était jeune, il était tellement nerveux, tellement coléreux, qu'il n'en pouvait plus, il arrivait à un degré de nervosité qu'il était dégoûté de sa vie. Jusqu'à ce qu'il ait décidé de mettre fin à cette colère. Il s'est travaillé, il m'a raconté, pendant 4 années durant. Presque tous les jours, avec une étude, avec la prière, avec pas une continuité, une persévérance, un travail bien établi pour se libérer de cette colère, cette nervosité, jusqu'à ce qu'il a, pendant 4 années de travail, il s'est libéré totalement de cette colère. Il avait dit une fois que sa femme pourrait témoigner que pendant pas déjà une 20aine d'années, il ne s'est jamais, jamais énervé. C'est-à-dire que même si quelqu'un est né avec un vice, un défaut, même la colère qui est en général difficile à s'en débarrasser, même dans ce cas-là, on peut atteindre un niveau, n'est-ce pas, de perfection, à tel point où pendant une 20aine d'années, ne jamais s'énerver pour quoi que ce soit. Je vous dis entre parenthèses, c'est quelqu'un qui a une grande famille, il a au moins 11 enfants. C'est ce qu'il avait, n'est-ce pas, lorsque j'avais parlé, un plus. Mais il y a au moins 11 enfants. Donc ce n'est pas quelqu'un qui a une vie aussi facile, c'est quelqu'un aussi qui n'a pas beaucoup de moyens. Donc il a beaucoup de difficultés quotidiennes, donc il a beaucoup de raisons de s'énerver. Malgré ça, c'est un homme qui est calme, c'est grâce à un travail. Donc comme on l'a dit auparavant, Hachem nous a donné la possibilité d'adopter, d'acquérir une maîtrise de soi totale. Même si nous sommes nés avec un défaut, un vice, même si nous avons l'occasion vraiment d'être confrontés, d'être mis à l'épreuve par rapport à ce défaut, on a la possibilité d'adopter une maîtrise totale dans tous les cas. Donc on avait dit, c'est qu'il faut mettre en action, il faut introduire dans notre travail la motivation de notre travail par rapport à l'enjeu que nous avons en face de nous. C'est-à-dire prendre conscience de l'enjeu que tu as en face de toi. Prendre conscience qu'en effet, si tu ne te travailles pas, si tu ne vas pas t'habituer à te maîtriser, eh bien, après quelques années, ça sera encore plus grave. Là, ça sera encore plus difficile de pouvoir se maîtriser. Au contraire, mieux vaut maintenant s'y habituer. Deuxièmement, ce que tu peux gagner si tu t'habitues à te maîtriser, quel bonheur, tu peux transformer ta vie en un bonheur extraordinaire. Alors par rapport à cet enjeu-là, il y a aussi un autre enjeu dans un autre domaine, d'autres dimensions. Là, ça concerne la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire que il faudra créer en nous une motivation par rapport à la Torah et les mitzvot. Comme dit auparavant, c'est que si on ne connaît pas la valeur de la chose, si on ne connaît pas la valeur de la pierre précieuse qui est en face de nous, eh bien pour nous c'est un caillou, c'est une pierre, on la jette. Par aussi, la Torah, la mitzvah, la tefillah, les teilim, si on ne connaît pas leur valeur réelle, alors même si on les fait tous les jours, mais on ne va pas réussir à les exploiter de façon tout à fait positive et efficace. Mais au contraire, on va les délaisser. On va les faire avec une certaine nonchalance, une certaine indifférence, une certaine paresse. Et c'est dommage. Pourquoi ? Parce qu'en effet, pour pouvoir exploiter, pour pouvoir bénéficier réellement de la valeur de la Torah et de la mitzvah, il faut se rendre compte de ce que ça vaut. Alors en fait, on a dit plusieurs fois que se rendre compte réellement de la valeur de la mitzvah, c'est impossible. Pourquoi ? Parce que dans ce monde-ci, on ne peut pas se rendre compte vraiment de la valeur. Bon, nous savons uniquement que nos sages nous disent, nos anciens de Pirkei Avot, que tous les plaisirs du monde entier ne valent pas une mitzvah. C'est-à-dire que la récompense spirituelle d'une mitzvah au monde futur, elle vaut plus que tous les plaisirs du monde entier. C'est-à-dire que si tu arrives à réunir, à concentrer tous les plaisirs des milliards d'êtres humains sur la planète, qui ont existé depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas suffisant pour te donner la récompense d'une mitzvah. Bon, c'est écrit dans la Mishnah, dans la Avot, mais on n'arrive pas réellement à se l'imaginer. Mais ce n'est pas grave. Pour nous, ce qui est essentiel, c'est de s'intéresser à la valeur de la mitzvah, de la Torah, de la Tfila. Même si on ne va pas réussir à réellement connaître la valeur réelle de chaque mitzvah, mais cependant, on pourra se rapprocher, on pourra avoir une idée, un aperçu de la valeur réelle. Automatiquement, dès qu'on connaît la valeur de la Torah, de la mitzvah, eh bien, on devient motivé, on a envie de la réaliser. Et là, automatiquement, ça pourra nous aider à nous libérer de nos instincts. Pourquoi? Parce qu'en effet, les instincts et les vices nous dérangent constamment, quotidiennement, à faire la Torah et les mitzvot. Au contraire, si on s'habitue à apprécier la Torah à sa juste valeur, eh bien, on pourra transformer notre vie grâce à cela. C'est encore un petit machal. Enfin, imaginez quelqu'un qui n'a pas la vue, qui est aveugle. Alors bon, pour lui, il considère le monde, il l'imagine d'une certaine façon. Il a un contact avec le monde de façon différente que nous l'avons. Il a un contact avec l'ouïe, avec le toucher, etc. Et il a une approche au monde de façon différente que nous. Imaginez que cet homme-là a été guéri par un grand médecin. Une fois qu'il a été guéri, eh bien automatiquement, il découvre un monde nouveau. Son approche au monde est tout à fait différente. Prenons encore un autre exemple. Quelqu'un qui était réellement fou pendant un certain temps et qui, grâce aussi à un grand psychologue ou alors un grand médecin, eh bien, il a pu devenir un homme normal. Il a pu retrouver ses esprits. Eh bien, automatiquement, cela lui a transformé son monde. Il voit, il aborde, il approche le monde de façon tout à fait différente qu'il le faisait auparavant. Par aussi, un enfant de 10 ans ou alors un adulte de 30 ans ou 40 ans ont tous deux une approche différente au monde qu'ils voient en face d'eux. Pas quelqu'un voit un paysage, chacun voit autre chose. Pas pour une personne, ça peut évoquer, je veux dire, une certaine nostalgie. Pour un autre, c'est la mélancolie. Pour un autre, pas qui est un peintre, ça peut tout de suite lui donner envie de dessiner ce paysage. Chacun pense à autre chose, chacun a une approche différente à ce qu'il voit. Lorsque vous écoutez un concert de 30 musiciens, par exemple, alors, quelle musique vous allez écouter plus que l'autre? Alors, si vous êtes guitariste, eh bien, vous allez écouter la guitare bien plus que les instruments. Parce que si vous êtes un batteur, vous entendrez la batterie plus que les autres instruments. C'est normal. Pourquoi? Parce que chaque être humain a développé son ouïe pour tel ou tel instrument plus que l'autre. Chacun voit ce qui l'intéresse. Chacun entend ce qui l'intéresse. Lorsque vous entrez chez un camarade, un ami, vous voyez son appartement, eh bien chacun a ce qui l'intéresse. Une mère de famille qui a l'habitude de beaucoup cuisiner, elle verra surtout la cuisine. Le père verra plutôt le salon ou alors la bibliothèque. Ça dépend chacun selon ce qu'il a fait. C'est-à-dire que chaque être humain a une approche, a un regard à ce qu'il voit et ce qu'il contemple selon ce qu'il est, ce qui l'intéresse. Et chacun d'entre nous a la possibilité de forger, de bâtir cela. Par aussi, c'est que nous avons une approche au monde, à la vie, à l'être humain, à la Torah et aux mitzvot, à la tefila, etc. selon ce que nous sommes, selon l'idée que nous avons introduit en nous de ce que c'est la Torah, de ce que c'est la mitzvah, de ce que c'est le Shabbat. Par exemple, le Shabbat. Le Shabbat, ça peut être pour quelqu'un, je veux dire, une journée, une corvée. Parce que le Shabbat, tout est interdit. On ne peut rien faire. Voyager, interdit. La lumière, interdit. La télé, interdit. Tout interdit. Donc, c'est comme je suis dans une prison. Pour un autre homme, le Shabbat, c'est le même Shabbat, la même journée, mais pour lui, c'est un bonheur, c'est un kiff extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'au contraire, il ferme la banque, il ferme, n'est-ce pas, tous ses comptes, le téléphone, et il est en train de se recueillir. Il est en train de se retrouver avec soi-même. Il coupe le contact avec tous les médias, et il retrouve sa famille. Il se retrouve, il se recueille, il fait un bilan, il s'élève spirituellement. Il s'élève moralement, il est en train de se concentrer sur certains textes qui vont l'aider à progresser pendant toute la semaine. Le Shabbat, c'est la même journée, mais pour telle personne, c'est une journée extraordinaire. Pour l'autre, c'est une interdiction. Pareil pour chaque mitzvah, chaque Torah. C'est-à-dire que c'est ça, ne pas ça réellement, la liberté ou l'esclavage. C'est de quelle façon tu imagines ton monde, qu'est-ce que tu vois en face de toi. Pas comme le machin bien connu. Lorsqu'une bouteille, elle est à moitié pleine, à moitié vide. Alors l'un dira, elle est à moitié pleine, l'autre dira, elle est à moitié vide. Les deux ont raison. La question, c'est qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois le côté qui est plein ou le côté qui est vide. Et ça, on a toujours, n'est-ce pas, dans tous les cas, la possibilité de transformer notre vision, de prendre une paire de lunettes qui est noire, une paire de lunettes qui est rose. Et automatiquement, tu vois le monde en noir ou le monde en rose, ça dépend uniquement de toi. C'est-à-dire qu'il faut s'habituer à voir le monde de façon différente. D'abord, prendre conscience que est-ce que le monde, il est beau ou alors il est affreux. Est-ce que le monde est cruel ou alors il est bon? Eh bien, les deux sont vrais, mais ça dépend comment tu le prends.
Moi, je vois ça, ce regard des choses par rapport au parachat sur la sortie d'Égypte. Comment on voit ça
Ce que la Torah nous enseigne ici, la chose suivante, c'est que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte il y a 3315 années environ. Et cette sortie d'Égypte est en train de se renouveler chaque année quand il parachute et à Pessah. C'est-à-dire que pas l'Égypte, c'est un symbole. Et bon, ça existe évidemment. Mais cette Égypte, elle existe aussi en nous. C'est-à-dire, on dit Yetziat Mitzrayim. Alors, grammaticalement, on aurait dû dire Yetzia Mimitzrayim. On sort de l'Égypte. Yetziat Mitzrayim, ça veut dire, c'est comme on dit, on fait sortir l'Égypte de nous. Mitzrayim, c'est Milashon Metsa. C'est comme, n'est-ce pas, c'est que chacun, il a des vices et des défauts, et bien il doit savoir comment les sortir, comment en être libéré. Alors comment être, c'est de tout temps, n'est-ce pas, chaque génération, elle possède aussi ses vices, ses problèmes, ses perturbations. Par exemple, de nos jours, un des problèmes numéro un, ce sont les médias. Comme on l'a dit auparavant, pas mis à part les dégâts que ça peut causer. Chez les enfants, pour ne citer que l'exemple, pas que même les grands psychologues sont d'accord de nos jours, qu'il y a ce qui s'appelle le concept de mimésie, que le grand philosophe Girard a beaucoup pas expliqué et démontré, c'est qu'un être humain a tendance à imiter tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend. C'est encore plus flagrant, plus intense, plus profond chez un enfant. Mais pour un adulte, c'est pareil aussi. Et c'est sûr, ce concept-là, que pratiquement toutes les publicités sont bâties. Parce qu'en effet, on est en train de montrer, de voir, d'entendre, n'est-ce pas, des sons, et des couleurs, etc., devant des milliers de personnes, pour les convaincre inconsciemment d'acheter tel et tel produit. Parce que ce que tu as vu, tu as envie automatiquement de l'acheter. Tu vois quelqu'un en train de boire un Coca-Cola, ça te donne envie toi aussi de le boire. Alors lorsqu'on monte, n'est-ce pas, dans les médias, des meurtres, des cruautés, des bagarres, etc., eh bien, que tu le veux ou non, ça t'influence de faire pareil. Ce que tu vois, ce que tu entends, tu es influencé plus ou moins, évidemment, qu'un enfant sera plus influencé qu'un adulte, parce qu'un adulte est déjà plus ou moins maître de sa pensée. Il pourrait ne pas plutôt faire un choix, une direction, une maîtrise de sa pensée, un enfant beaucoup moins. Mais dans tous les cas, tu es influencé plus ou moins parce que tu as vu. Et nous sommes de nos jours plus ou moins esclaves de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on entend. Et c'est pourquoi, parce que la Torah nous dit, attention, d'abord tu dois t'habituer à être maître de toi. Tu as la possibilité de te maîtriser. Et ce qu'on va dire maintenant, c'est que bien comprendre, bien saisir, que l'approche différente qu'on peut adopter à la vie, au monde, à la société, à la Torah, aux mitzvot, eh bien, ça nous donne une approche différente. Par exemple, pour citer cet exemple-là, si un être humain se rend compte des capacités qu'il a intellectuellement, spirituellement, moralement, dans la Torah, dans les mitzvot, tu te rends compte que tu peux arriver à un niveau très élevé en Torah, un niveau très élevé en mitzvot, en tefila, etc., un niveau très élevé dans la maîtrise de soi, comme l'exemple qu'on a donné, pas pour l'homme, qui était très nerveux, hyper nerveux, et il a pu être très très calme au point de ne jamais s'énerver pendant 20 ans. C'est vraiment difficile à imaginer. Mais l'être humain peut le réaliser. Alors automatiquement, tu adoptes une approche différente à la vie. Tu dis attention, n'est-ce pas, je ne vais pas me laisser aller. Je suis obligé, n'est-ce pas, de régler, de diriger ma vie pour arriver à me maîtriser, arriver au summum de ce que je peux arriver dans ma vie, parce que si je me laisse aller aux médias, aux influences extérieures, etc., eh bien, je serai un esclave de tout ce que je vois, tout ce que j'entends, c'est dommage.
Du fait que les ministres ont reçu la Torah après la sortie d'Égypte, ça veut dire que tant qu'on ne s'est pas libéré de nos instincts et qu'on ne les a pas maîtrisés, on n'a même pas commencé le chemin dans la Torah.
C'est vrai, mais pas à 100%. C'est-à-dire que c'est sûr et certain que la sortie d'Égypte, que la liberté des vices et des défauts, n'est-ce pas, des instincts et des mauvaises habitudes, ça nous prépare à étudier, à recevoir la Torah, sûr et certain. C'est aussi Ramus dans Derech Eretz Kadma la Torah. La maîtrise de soi nous prépare automatiquement à la Torah. Mais cependant, on a le droit, nous avons la possibilité, la capacité, et ça réussit aussi de faire la Torah mitzvot, même avant, n'est-ce pas, d'avoir appris à se maîtriser. Non seulement cela, c'est qu'une fois que la Torah a été donnée, eh bien la Torah nous aide aussi à adopter cette maîtrise. C'est-à-dire que cette maîtrise, on peut l'adopter, c'est vrai, par une habitude, par un entraînement, par une gymnastique d'esprit, de se maîtriser, mais on peut aussi le réaliser par la Torah, et on doit spécifiquement réunir les deux, et le travail personnel, et le travail par l'étude de la Torah, le mitzvot et la tfila.
Mais sans la Torah, je ne comprends pas comment on peut se maîtriser, puisque la Torah nous montre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Donc quelqu'un, tant qu'il ne sait pas reconnaître les forces qui sont en lui, lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses, alors comment il va savoir se maîtriser?
Bon, c'est sûr que la Torah nous aide dans tous les cas. Mais cependant, même a priori sans la Torah, un être humain, par exemple, s'il se rend compte que la colère c'est mauvais, il pourra s'habituer à ne pas s'énerver même sans la Torah. Et donc le travail est plus difficile. Avec la Torah, tout est plus facile. Mais je résume encore un dernier point, c'est que ce qui est important à signaler, c'est que lorsqu'on travaille la maîtrise de soi, lorsqu'on travaille le fait de valoriser la mitzvah, la Torah, de valoriser l'être humain, automatiquement, on adopte une approche différente au monde, à la vie des êtres humains, et on apprend à se mettre en valeur, on apprend à respecter, à honorer autrui. Le monde, il est carrément transformé, ça nous change la conception et on a adopté une conception qui nous élève moralement, spirituellement.